Le journal Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de votre journal, plus de monde et plus de violence pour l'acte 18 des Gilets jaunes.
32 000 manifestants dans toute la France selon la police, 230 000 selon les organisateurs. Un 18e samedi également marqué par le retour des violences, notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Une violence inacceptable pour le gouvernement, légitime pour certains manifestants. Reportage dans ce journal. On a aussi marché pour la planète hier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Nous irons prendre la température dans un cortège à Limoges. Enfin, le 15 de France sauve les meubles face à l'Italie avec une victoire difficile, 25 à 14. Les rugbymen français terminent 4e du tournoi à destination, de mauvais augure à 6 mois de la Coupe du Monde au Japon. Votre invité aujourd'hui, Pierre.
À 8h20, le sociologue Michel Wiewiórka. Il fait partie des 60 intellectuels qu'Emmanuel Macron recevra demain dans le cadre du Grand Débat. Que va-t-il dire au président? Et bien sûr, avec lui, la question pour comprendre ces violences, ces pillages hier à Paris, sur les Champs-Élysées.
France Inter.
Les Gilets jaunes remettent la pression. 32 000 personnes ont manifesté dans toute la France hier. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est 4 000 de plus que la semaine passée. Un chiffre contesté par les Gilets jaunes qui comptent, eux, 230 000 participants. Un acte 18 également marqué, on le disait, par des violences et des affrontements avec la police, notamment sur les Champs-Élysées. 144 personnes ont été placées en garde à vue en marge de la manifestation parisienne. L'une des plus violentes depuis le début du mouvement, Yann Gallick.
Des abribus et des vitrines brisées, des pavés et des panneaux arrachés, des commerces pillés, une banque incendiée et la brasserie du Fouquet's saccagée. Le quartier des Champs-Élysées porte les stigmates de cette journée d'affrontement. Des black blocs et des casseurs se sont infiltrés dans le cortège des Gilets jaunes, au milieu de manifestants majoritairement pacifiques, même si certains tentent de justifier les violences.
La première violence, c'est la violence sociale. Lorsque Emmanuel Macron choisit de supprimer l'ISF, ne serait-ce que pour le symbole, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je condamne la violence, certes, mais je la comprends aussi. Parce que quand vous voyez la violence symbolique qui existe dans notre pays, on ne peut pas rester les bras croisés. Certains aussi commencent à craquer. Et forcément, ils commencent à casser. Mais la réponse, elle ne sera pas policière. La réponse, elle sera politique.
Les Gilets jaunes, comme Jida, dénoncent surtout la violence des forces de l'ordre qui ont fait un usage massif de gaz lacrymogène.
Les gens en ont assez de faire des marches où ils se font gazer sans agir violemment. Maintenant, bon, effectivement, il y a des gens un peu plus violents qui cassent les magasins. Moi, je suis gilet jaune, je ne suis pas violente. Tant que Macron n'écoutera pas le peuple français, je pense que nous continuerons.
Malgré ce regain de violence, les manifestants veulent poursuivre le mouvement sans attendre les conclusions du grand débat national. Un débat que la plupart des gilets jaunes perçoivent toujours comme une mascarade.
Un reportage de Yann Gallick.
Et à 8h10, Patricia Martin reviendra sur ces événements, ces violences. Hier à Paris, elle recevra Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris. Une vague verte déferle sur la France.
Oui, Pierre, la marche pour le climat hier a réuni des dizaines de milliers de manifestants dans tout le pays. Ils étaient 45 000 rien que dans les rues de Paris. Une marche qui a aussi beaucoup mobilisé dans plusieurs villes de France. Exemple à Limoges, où ils étaient entre 2000 et 3000 à manifester dans les rues de la ville. Un véritable succès pour Martine Laplante du collectif pour le climat 87.
La place est pleine, oui, ça fait du bien. Quand on est militant depuis des années et des années, ça fait du bien de voir que ça commence à avancer. Monsieur le maire nous disait que faire une marche, c'était bien, mais c'était pas le plus important, c'était comment se comporter au quotidien. Mais le but des marches, c'est de sensibiliser. Quand on marche comme ça dans la ville et qu'on traverse la ville, on donne des tracts aux gens qu'on croise sur les trottoirs, on sensibilise et dans ces marches, on voit de plus en plus de gens qui ne sont pas militants, qu'on ne voyait pas d'habitude. Donc je crois, je suis convaincue que la conscience écologique est en train d'avancer et c'est vrai que chacun doit y mettre du sien, mais c'est à tous les niveaux, il ne faut pas tout reporter sur le citoyen qui ne peut pas tout faire à lui tout seul. Il faut des lois, il faut des soutiens et ça, on ne peut l'avoir qu'auprès des collectivités, qu'auprès des États.
Martine Laplante du collectif Climat 87 au micro de France Bleu Limousin. Quand Trump rencontre Bolsonaro, le président américain reçoit pour la première fois son homologue brésilien aujourd'hui à la Maison Blanche. Entre les deux hommes, le courant devrait passer. Leurs points communs sont nombreux, à tel point d'ailleurs que Jair Bolsonaro est depuis longtemps surnommé le Trump tropical. Et pour les électeurs du président brésilien, ce rapprochement avec les États-Unis est une bonne chose, Anne Vigna.
Demandez à un électeur de Bolsonaro ce qu'il pense de Donald Trump et il vous répondra certainement que le président brésilien n'est pas une copie de l'américain.
Le monde entier parle très mal de Trump, qu'il est un clown, qu'il est autoritaire, etc. Mais les Américains sont contents de lui. Et Bolsonaro a peut-être quelque chose de commun avec Trump, mais en même temps, je le trouve authentique. Il ne copie personne, et Trump non plus d'ailleurs.
Les soutiens de Bolsonaro sont persuadés que le Brésil va devenir un partenaire commercial privilégié des États-Unis grâce à leur nouveau président.
Je crois que le Brésil doit voir les choses en grand. L'argent est là-bas, aux États-Unis, donc c'est avec eux qu'il faut faire des affaires, et pas avec le Venezuela ou bien Cuba.
Le Brésil, 8e puissance mondiale, n'avait que peu d'échanges commerciaux avec le Venezuela et Cuba. Mais Bolsonaro répète que c'est le communisme qui dictait la politique étrangère brésilienne. Un discours représentatif pris à l'identique dans son électorat où on ignore tout de la guerre commerciale menée par Trump contre la Chine, premier partenaire commercial du Brésil. Rio de Janeiro, Anvinia, France Inter.
Les Philippines quittent aujourd'hui la Cour pénale internationale. La raison, une enquête lancée par les juges sur les violences commises par le gouvernement du président Duterte. Sa politique de répression brutale du trafic de drogue a déjà fait plusieurs milliers de morts depuis 2016. Vous avez peut-être suivi son exploit le mois dernier. L'ancien parachutiste Christophe Papillon a traversé l'Atlantique à la rame. Plus d'un million de coups de rame pour rallier la Martinique le 10 février après plus de deux mois de voyage. Un défi de fou pour rendre hommage à ses camarades soldats morts sur les champs de bataille et récolter des dons pour les orphelins et les veuves. Christophe Papillon qui a fêté cet exploit avec toute la famille des militaires réunis à Toulouse, Olivier Lebrun.
Tout seul sur sa coque de noix, 7000 km à la rame sur l'océan si l'on tient compte des courants, Christophe Papillon le sait maintenant, tout se passe dans la tête plus que dans les bras.
C'est avant tout, je dirais, un défi moral plus que physique. Il y a eu des moments difficiles, hein, les petites blessures, les escarres, les tendinites, ce genre de choses. Le plus dur, encore une fois, c'est des moments de doute, de se dire qu'on pouvait ne pas arriver au bout. Je voulais aider les veuves et les orphelins de nos camarades disparus parce que je pense qu'elles méritent d'être aidées. Et donc, c'est ce qui m'a animé et c'est ce qui m'a fait tenir.
Veuve de guerre, comme l'on dit, Sabrina Verrier a perdu son mari soldat il y a 10 ans au Liban.
Aujourd'hui, il a rendu hommage à tous les soldats tombés, morts pour la France, et indirectement, il a mis à l'honneur nos vies de veuves de guerre, nos vies de nos enfants orphelins qui souffrent, qui sont dans une société un peu comme des extraterrestres, parce que on est un peu dans une profonde solitude. Et à travers l'exploit justement de Christophe Papillon, en fait, il nous a mis dans la lumière, tout simplement.
Christophe Papillon a rejoint la terre ferme, mais il pense déjà à repartir.
J'envisage effectivement de faire un nouveau défi, alors toujours avec le même esprit. Ça sera très probablement dans un décor blanc, non pas que je ne veuille pas vous répondre exactement. Certainement une traversée de l'Arctique ou rejoindre le pôle Nord, enfin quelque chose dans cet esprit.
Une traversée en solitaire, dit Christophe Papillon, n'est possible que grâce à une aventure collective qui vous aide à vous surpasser.
Un reportage d'Olivier Lebrun. En rugby, le 15 de France termine son tournoi à destination sur un succès en Italie, 25-14. Deuxième victoire de la compétition, mais une victoire à l'arraché qui ne rassure personne à 6 mois de la Coupe du Monde, tant le jeu déployé par les Bleus a encore été pauvre. Une des rares satisfactions du tournoi, le jeune ouvreur Romain Ntamack, encore auteur d'un bon match hier. Conscient des difficultés de son équipe, il préfère retenir le positif.
Je pense qu'on a pris conscience de certaines choses. Après, on a progressé sur certains matchs. On a vu ce qu'était le haut niveau sur d'autres. Donc on sait où on est, on se situe à peu près. Donc j'ai appris aux côtés des meilleurs et en jouant face aux meilleurs. Donc forcément, ça fait grandir. J'espère continuer avec mon club jusqu'à la fin de la saison. Et non, moi, j'en tire beaucoup de positifs malgré les matchs où on s'est fait un peu marcher dessus et on s'est fait un peu critiquer dans tous les sens. Mais j'en retiens beaucoup de positifs et le négatif, j'essaie de pas trop y faire attention.
Romain Ntamack au micro de Jérôme Val. Et le grand vainqueur de ce tournoi destination, c'est le Pays de Galles. Le 15 du Pourreau a gagné tous ses matchs et fait le grand chelem hier après sa large victoire 25-7 face à l'Irlande. Il est 7h09 sur France Inter. On retrouve Pierre Veil pour la suite du 6-9.
Et c'était le journal de Thomas Larabie.